Charles se retourna, aperçut sa tante et sa cousine. « J'ai perdu mon père, mon pauvre père. S'il m'avait confié le secret de son malheur, nous aurions travaillé tous deux à le réparer. Mon Dieu, mon bon père, je comptais si bien le revoir que je l'ai, je crois, froidement embrassé. » Les sanglots lui coupèrent la parole. « Nous prierons bien pour lui, » dit Madame Grandet. « Résignez-vous à la volonté de Dieu. »« Mon cousin, » dit Eugénie, « prenez courage. Votre perte est irréparable. Ainsi songez maintenant à sauver votre honneur. » Avec cet instinct, cette finesse de la femme qui a de l'esprit en toutes choses, même quand elle console, Eugénie voulait tromper la douleur de son cousin en l'occupant de lui-même. « Mon honneur ! » cria le jeune homme en chassant ses cheveux par un mouvement brusque, et il s'assit sur son lit en se croisant les bras. « Ah, c'est vrai ? Mon père disait mon oncle a fait faillite. » Il poussa un cri déchirant et se cacha le visage dans ses mains. « Laissez-moi, ma cousine, laissez-moi. Mon Dieu, pardonnez à mon père, il a dû bien souffrir. » Il y avait quelque chose d'horriblement attachant à voir l'expression de cette douleur jeune, vraie, sans calcul, sans arrière-pensée. C'était une pudique douleur que les cœurs simples d'Eugénie et de sa mère comprirent quand Charles fit un geste pour leur demander de l'abandonner à lui-même. Elles descendirent, reprirent en silence leur place près de la croisée et travaillèrent pendant une heure environ sans se dire un mot. Eugénie avait aperçu, par le regard furtif qu'elle jeta sur le ménage du jeune homme, ce regard des jeunes filles qui voient tout en un clin d'œil, les jolies bagatelles de sa toilette, ses ciseaux, ses rasoirs enrichis d'or. Cet échappé d'un luxe vu à travers la douleur lui rendit Charles encore plus intéressant, par contraste peut-être. Jamais un événement si grave, jamais un spectacle si dramatique n'avait frappé l'imagination de ces deux créatures incessamment plongées dans le calme et la solitude. « Maman, » dit Eugénie, « nous porterons le deuil de mon oncle ?»« Ton père décidera de cela, » répondit Madame Grandet. Vers 4 heures, un coup de marteau brusque retentit au cœur de Madame Grandet. « Qu'a donc ton père ?» dit-elle à sa fille. Le vigneron entra joyeux. Après avoir ôté ses gants, il se frotta les mains à s'en emporter la peau. Si l'épiderme n'en eût été tanné comme du cuir de Russie, sauf l'odeur des mélèzes et de l'encens. Il se promenait. Il regardait le temps. Enfin, son secret lui échappa. « Ma femme, » dit-il sans bégayer, « je les ai tous attrapés. Notre vin est vendu. Les Hollandais et les Belges partaient ce matin. Je me suis promenée sur la place devant leur auberge en ayant l'air de bêtiser. Chose que tu connais est venue à moi. Les propriétaires de tous les bons vignobles gardent leur récolte et veulent attendre. Je ne les en ai pas empêchés. Notre Belge était désespéré. J'ai vu cela. Affaire faite, il prend notre récolte à 200 francs la pièce, moitié comptant. Je suis payée en or. Les billets sont faits, voilà 6 louis pour toi. Dans 3 mois, les vins baisseront. Vous avez 1000 pièces cette année, mon père ? Dit Eugénie. Oui, Fifi. Ce mot était l'expression superlative de la joie du vieux tonnelier. Cela fait 200 000 pièces de 20 sous ? Oui, mademoiselle Grandet. Eh bien, mon père, vous pouvez facilement secourir Charles ? Ah ça, depuis que ce mirliflore a mis les pieds dans ma maison, tout y va de travers. Vous vous donnez des airs d'acheter des dragées, de faire des noces et des festins. Je ne veux pas de ces choses-là. Je sais à mon âge comment je dois me conduire, peut-être. D'ailleurs, je n'ai de leçons à prendre ni de ma fille, ni de personne. Je ferai pour mon neveu ce qu'il sera convenable de faire. Vous n'avez pas à y fourrer le nez. Quant à toi, Eugénie, ajouta-t-il en se tournant vers elle, ne m'en parle plus. Sinon, je t'envoie à l'abbaye de Noyers avec Nanon, voir si j'y suis. Et pas plus tard que demain, si tu bronches. Où est-il donc, ce garçon ? Est-il descendu ? Non, mon ami, répondit Madame Grandet. Eh bien, que fait-il donc ?
Il pleure son père, répondit Eugénie.
Grandet regarda sa fille sans trouver un mot à dire. Il était un peu père, lui. Après avoir fait 1 ou 2 tours dans la salle, il monta promptement à son cabinet pour y méditer un placement dans les fonds publics.
Nanon vint cogner au mur pour inviter son maître à descendre. Le dîner était servi. Sous la voûte et la dernière marche de l'escalier, Grandet disait en lui-même « Puisque je toucherai mes intérêts à 8, je ferai cette affaire. En 2 ans, j'aurai 1 500 000 francs que je retirerai de Paris en bon or. » « Eh bien, où est donc mon neveu ?»«
Il dit qu'il ne veut pas manger, » répondit Nanon. « Ça n'est pas sain. »«
Autant d'économiser, »
lui répliqua son maître.
« Dame, oui, » dit-elle.
« Bah, il ne pleurera pas toujours. La faim chasse le loup hors du bois. »
Le dîner fut étrangement silencieux. « Mon bon ami, » dit Madame Grandet lorsque la nappe fut ôtée, « il faut que nous prenions le deuil. »
« En vérité, Madame Grandet, vous ne savez quoi vous inventer pour dépenser de l'argent. Le deuil est dans le cœur et non dans les habits. »
« Mais le deuil d'un frère est indispensable et l'Église nous ordonne de acheter votre deuil sur vos 6 louis. Vous me donnerez une crêpe, cela me suffira. » Eugénie leva les yeux au ciel sans mot dire. Pour la première fois dans sa vie, ses généreux penchants endormis, comprimés, mais subitement éveillés, étaient à tout moment froissés. Cette soirée fut semblable en apparence à 1000 soirées de leur existence monotone. Mais ce fut certes la plus horrible. Eugénie travailla sans lever la tête et ne se servit point du nécessaire que Charles avait dédaigné la veille. Madame Grandet tricota ses manches. Grandet tourna ses pouces pendant 4 heures, abîmées dans des calculs dont les résultats devaient le lendemain étonner Saumur. Personne ne vint ce jour-là visiter la famille. En ce moment, la ville entière retentissait du tour de force de Grandet, de la faillite de son frère et de l'arrivée de son neveu. Nanon filait, et le bruit de son rouet fut la seule voix qui se fit entendre sous les planchers grisâtres de la salle.
« Nous n'usons point nos langues, » dit-elle en montrant ses dents blanches et grosses comme des amandes pelées.
« Ne faut rien user, » répondit Grandet en se réveillant de ses méditations.
Il se voyait en perspective 8 millions dans 3 ans. Il voguait sur cette longue nappe d'or.
« Couchons-nous. J'irai dire bonsoir à mon neveu pour tout le monde et voir s'il veut prendre quelque chose. »
« Eh bien, mon neveu, vous avez du chagrin. Oui, pleurer, c'est naturel. Un père est un père. Mais il faut prendre notre mal en patience. Je m'occupe de vous pendant que vous pleurez. Je suis un bon parent, voyez-vous. Allons, du courage. »
« Voulez-vous boire un petit verre de vin ?»«
Le vin ne coûte rien à Saumur, on y offre du vin, comme dans les Indes, une tasse de thé. »«
Mais, » dit Grandet en continuant, « vous êtes sans lumière. Mauvais, mauvais. Faut voir clair à ce que l'on fait. »
Grandet marcha vers la cheminée.
« Tiens, » s'écria-t-il, « voilà de la bougie. »«
Où diable a-t-on pêché la bougie ? Les garces démoliraient le plancher de ma maison pour cuire des œufs à ce garçon-là. »
En entendant ces mots, la mère et la fille rentrèrent dans leur chambre et se fourrèrent dans leur lit, avec la célérité de souris effrayées qui rentrent dans leur trou.
« Madame Grandet, vous avez donc un trésor ?» dit l'homme en entrant dans la chambre de sa femme.
« Mon ami, je fais mes prières, attendez !» répondit d'une voix altérée la pauvre mère.
« Que le diable emporte ton bon Dieu !» répliqua Grandet en grommelant. « Madame Grandet, as-tu fini ?» dit le vieux tonnelier.
« Mon ami, je prie pour toi. »«
Très bien, bonsoir. Demain matin, nous causerons. »
La pauvre femme s'endormit comme l'écolier qui, n'ayant pas appris ses leçons, craint de trouver à son réveil le visage irrité du maître. Au moment où, par frayeur, elle se roulait dans ses draps pour ne rien entendre, Eugénie se coula près d'elle, en chemise, pieds nus, et vint la baiser au front. « Ô bonne mère, » dit-elle, « demain je lui dirai que c'est moi. »
« Non, il t'enverra à noyer. Laisse-moi faire, il ne me mangera pas. »«
Entends-tu, maman ?»«
Quoi ?»«
Eh bien, il pleure toujours. »«
Va donc te coucher, ma fille. Tu gagneras froid aux pieds. Le carreau est humide. »